Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel. Show!
Bonjour, 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 bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de nous faire quelque chose d'assez... On l'a jamais fait encore. On l'a jamais fait. Enfin, nous allons parler de bandes dessinées érotiques en plus de nos sujets habituels.
Ouais, enfin, il y en a qu'une, hein. On va rester quand même soft. Mais il y a une bande dessinée érotique.
Voilà. Je suis One Eye Pied.
Je suis Thio.
Et on va parler de plein de BD. Et je vous rappelle que nous avons toujours... Notre concours avec Isneo pour gagner des tonnes d'Ex Libris. On essaie de donner des indices en cours d'émission. Déjà, on peut vous donner un indice super utile. Aucune des BD dont on parle ce soir ne gère.
Wow. Donc, alors juste pour vous dire quand même, c'est que là, on a décidé d'attaquer au petit penche. Et là, One Eye Pied m'a fait un petit penche, mais de derrière les fagots. Là,
de Martinique. Moi, je fais des petits penches de Martinique.
Waouh.
Je vous garantis pas pour la suite de l'émission.
Si, moi je garantis qu'on va bien rigoler. On va bien rigoler et on commence avec du presque neuf.
Avec Maskman de chez Ankama, le numéro 1, pour la modique somme de 3,50€.
Donc une bande dessinée sur le même modèle que Remington, dont on avait déjà parlé. Donc, il se passe dans l'univers de Dofus Wakfu, là, pour le coup, plus précisément, le jeu en ligne de chez Ankama.
Ouais.
Qui est Maskman ?
Eh bien, en fait, à la fin du tome, on sait toujours pas.
Ah. D'accord. Est-ce qu'il est le plus grand des héros ? Est-ce qu'il va dans la vie ? Est-ce qu'il vole plus haut que les oiseaux ? Est-ce que c'est lui le roi de la justice ?
Tu assumeras pleinement tes références. Je ne cautionne rien du tout de ce qu'il a dit, voilà. Je vais le faire comme ça. Donc Maskman, un personnage qui a plusieurs masques, et en fonction du masque qu'il prend, il peut avoir plus différents pouvoirs.
D'accord.
Et donc là, l'histoire commence, on poursuit Maskman. Et on lui mène la chasse.
Ce tome-là n'est quasiment qu'un épisode de poursuite. Notre héros est traqué par
une bande de chasseurs, on sait même pas, on connaît même pas leur nom.
D'accord, qui ont tous des pouvoirs à eux, enfin c'est l'univers de Wakfu, donc je pense que c'est issu de tout ça. Puis voilà, pour le moment c'est vraiment une introduction, on nous explique vaguement les pouvoirs de Maskman, enfin en tout cas d'un des masques.
On nous parle seulement du masque du pleutre.
Voilà, c'est une exposition, on a envie d'en apprendre plus.
Ben, c'est une bonne exposition parce que ça fonctionne bien. On a qui est Maskman, c'est quoi ses pouvoirs. En une vingtaine de pages, je trouve que l'ambiance est posée.
Ouais, t'as été plus convaincu que par le premier Remington, donc.
Beaucoup plus convaincu que que par Remington, enfin que le premier Remington, parce que là il y a 15 jours on a parlé donc du tome 2, qui était déjà qui m'a un peu plus convaincu, qui a commencé à me plaire, et c'est vrai que j'attendais un petit peu le tome 3. Et là, Maskman d'entrée, ça m'a convenu, quoi.
Voilà, alors il vous reste assez peu de temps pour l'acheter, parce que le numéro 2 va sortir bientôt, parce que moi aussi ça m'a bien plu, puis surtout que le dessin est super sympathique. Je ne sais pas si ils vont réussir à tenir le rythme bimensuel comme ça, parce que quand même il y a pas mal de planches, il y a encore 22 et 24 planches, un truc comme ça. 22 planches. Mais le format est très très sympathique et on a un dessin très bien. Alors, au scénario, on retrouve Tot, le scénariste, on va dire emblématique de tout ce qui est autour du monde de Dofus, enfin c'est un peu aussi le patron. Et au dessin, nous avons.
XZF.
L'homme au pseudo tellement hallucinant qu'on a du mal à croire que c'est vrai. Oui, c'est ça, en gros.
C'est pour ça que j'ai eu un doute.
Voilà. Et XZF, il l'assure. Franchement, il y a un travail sur la couleur. Alors, c'est un style très manga, qui est assez habituel. Mais il y a un travail sur la couleur. Alors, c'est de la couleur numérique, mais qui est bien classieuse. Bon, après, il triche un peu. Hein, ça se passe dans le désert et tout. Enfin, dans la neige. désert de neige. Je dis n'importe quoi.
Ouais, mais ça fonctionne très très bien. Toutes les scènes d'action sont bien menées.
Oui.
Et voilà, il y a des pouvoirs sympas. C'est bon, là, pour l'instant, voilà, c'est le début. Ça donne une petite aura de mystère. J'attends un peu la suite de voir comment ça évolue, mais ça m'a bien plu en tout cas pour le départ.
Et puis surtout que je sens le crossover avec Remington possible assez rapidement de par les différentes intrigues qui sont mises en place. On retrouve toujours un bon tiers de contenu éditorial. Pareil, j'avoue, ça m'intéresse moyen.
Là, il y avait, il y a quand même toujours un lien avec l'histoire qu'on lit. Hein.
Oui.
Là, intéressant parce que justement, il y a l'histoire des masques qui est un petit peu expliquée, leur création, tout ça. Donc c'était non, c'est bien.
Voilà. Et moi, j'attends le jeu de rôle Wakfu Dofus. Ça, ils ont un univers qui se prête très bien. Hein, un truc jeunesse, débutant, etc. Daredevil, numéro 21. La main du diable. Par Andy Deagle, Joe Johnston, Roberto De La Torre et Marco Cecchetto. On continue à suivre les aventures de Daredevil, à qui il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Alors, sachez, si vous ne l'avez pas lu, qu'il faut avoir lu le Dark Reign hors-série numéro 2. Parce qu'il s'y passe des choses assez importantes. J'ai vu sur Internet certaines personnes qui avaient acheté le Daredevil 21 après avoir acheté le 20 et qui sont un peu sentis surpris par des révélations qu'ils ont eues un peu trop rapidement. Daredevil est devenu le chef de la main. Une caste d'assassins d'origine japonaise qui existe depuis la nuit des temps.
Et qui travaille sur les 5 continents.
Sur les 5 continents. On a dans ce volume assez copieux 7 albums qui ont été rassemblés pour la somme de 16 €, ce qui est assez raisonnable. Et qui vont nous raconter donc 2 histoires. La première histoire raconte la tentative de prise de possession de la main de Matt Murdock d'Ardeville à New York. Il doit d'abord prouver qu'il veut faire entraînement en faisant un sacrifice. Assez surprenant d'ailleurs.
C'est le choix du sacrifice qui est surprenant.
Voilà.
Parce qu'il doit, dans tous les cas, il devait faire un sacrifice pour prouver justement qu'il était, qu'il voulait vraiment être le chef de la main. Mais le choix du sacrifice qu'il fait pose question.
Donc, et on suit ensuite tous les problèmes internes qu'il peut avoir à gérer autour de la main et puis autour de ses anciens collègues qui vont pas forcément comprendre ce qui lui arrive. Foggy, il est un peu largué, le pauvre.
Dans la source coulée, il comprend plus du tout, Matt. Hein.
Et donc, on a le dessin sur cette histoire-là de Roberto De La Torre, qui est dans l'esprit héros urbain, comme on a eu jusqu'ici, avec les Michael Lark, les Malev, etc. Qui passe très très bien, moi, j'ai bien aimé. Un côté un peu plus super-héros, hein, niveau scénaristique. On voit beaucoup plus Daredevil en costume.
Mmh. Et donc, en fait, il le quitte quasiment plus, parce que son existence réelle... C'est-à-dire que...
Oui, il est en train de sombrer encore.
Matt Murdock existe, disparaît.
Et on voit aussi les prémices d'un grand projet qui s'appelle Shadowland et qui, on le sait, sera le nom du crossover avec les héros urbains de Marvel à venir. La deuxième histoire, elle nous compte comment Daredevil doit aller à une grande réunion de la main avec les chefs de la main des 5 continents pour un peu expliquer « c'est moi le boss ».
Voilà, enfin non, surtout c'est qu'il est le boss de la main et c'est la première fois qu'il va rencontrer donc ses sous-chefs qui sont sur les 5 continents.
Et forcément, ça passe pas super bien.
Parce qu'il est pas japonais.
Voilà. Et puis qu'il n'est pas vraiment. Enfin bon, c'est pas le premier chef de la main pas japonais. Il y en a eu un avant.
Une
grecque. Electra Nachios.
Et que ça n'a pas trop marché.
Ça n'a pas trop marché, non, ça a un peu merdé. D'ailleurs, on leur explique bien, parce qu'il met le tigre blanc en tant que chef d'un des continents, on lui dit c'est une femme, c'est pas bien, et fou. Il leur dit ouais, mais il y a déjà eu une femme. Ouais, ben, on voit ce que ça a donné. Voilà. Donc, il va devoir réussir à les unir et à les convaincre, sachant qu'il y a un petit jeune. Qui a tué son maître pour avoir un peu son poste, qui n'est pas du tout d'accord, et donc on se retrouve avec de multiples manipulations et tentatives pourrir la situation. Voilà pour ces deux histoires. qui sont pas mal parce qu'on peut les résumer sans spoiler la précédente. Je trouve ça, c'est assez rare. Le dessin sur la deuxième histoire est beaucoup plus classique. Donc, c'est Marco Cecchetto qui a un style beaucoup plus super-héros standard, je dirais, entre guillemets. On n'a pas ce côté sombre, ce côté un peu photocopie qu'ils avaient utilisé pour le côté urbain. On retrouve quelque chose de beaucoup plus classique au niveau du style. Qu'en as-tu pensé ? Non, ça t'a pas...
J'ai préféré en fait le dessin du premier.
Et c'est le côté... On a pris l'habitude de voir Daredevil avec ce style-là. Par contre, je trouve que le Matt Murdock par Cecchetto a assez la classe au niveau du style graphique. Mais c'est parce que c'est un style qui permet plus de montrer des personnages charismatiques aussi...
Mais par contre, t'as quand même l'impression aussi que dès que Matt Murdock enfile le costume de Daredevil, il gagne des muscles.
Oui, mais ça, c'est un grand classique du super-héroïsme.
Non, mais même quand tu vois Clark Kent, il a quand même déjà...
Oui.
Il est carré, quoi.
Oui.
Matt Murdock, tu le vois en costume, tu te dis, bon, il a l'air un peu fifrelin, quoi. Là, il met le costume...
C'est ce qu'il achète des costumes. Il achète ses costumes chez le même tailleur que le Kaïd, c'est pour ça. Qu'as-tu pensé donc du passage à Andy Diggle en gros en tant que scénariste ? Ça peut faire peur. Est-ce que ça t'a plu scénaristiquement ? Alors au niveau du dessin, c'est propre, il y a rien à dire. On préférera un style ou l'autre, mais scénaristiquement, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Intéressant parce que on arrive à un moment où Matt Murdock fait des choix qui sont surprenants,
tendancieux,
mais surtout surprenant. Alors du coup, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une sorte de gros événement, on va dire, d'ici le prochain tome, peut-être le tome d'après.
Mais, on va avoir un gros crossover. Normalement, il y a un gros événement quand il y a un gros crossover.
Mais voilà, les choix de Matt Murdock deviennent surprenants, ce qui rend de plus en plus intéressant, on va dire, cet arc-là, je trouve.
Est-ce que tu regrettes pas ce côté héros urbain qu'on avait avant, ce côté héros urbain torturé? Alors effectivement, ça aurait été se répéter de
voilà,
continuer.
Voilà, sauf que justement, ce serait s'enliser dedans.
Ouais.
Alors c'est vrai que au tout début, je préférais quand même le précédent arc. Là, il y a pas de souci. Mais là, je trouve que ça commence vraiment à bouger. Ça devient intéressant. Maintenant, c'est sûr que si on était resté sur le Daredevil urbain qui est enlisé dans ses soucis, dans tous ses problèmes relationnels avec machin, avec bidule, ce qu'il a vraiment envie de faire lui, ce qu'il est obligé de faire pour Hell's Kitchen, enfin, là il y a un moment où on tournera en rond, quoi.
Ouais.
Je trouve que c'était une idée intéressante. Elle commence, je dirais, vraiment à prendre tournure, à donner des choses qui donnent envie de voir la suite.
Bah, j'espère qu'on ne sera pas déçus, parce que j'ai eu des échos sur le crossover Shadowland qui n'était pas forcément très très bon. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais il y a eu déjà des images qui ont teasé sur Internet avec la question « Qui est Daredevil ?» qu'est-ce que cela signifie ?
Peut-être que ces choix deviennent encore plus surprenants que dans ce tome-là.
Oui, on verra. Donc, en tout cas, pas mal. Qu'as-tu pensé des couvertures ? Tiens, les couvertures de Daredevil sont toujours assez impressionnantes.
Alors, la couverture qu'ils ont choisie pour celui-là, je trouve super.
Ouais.
Mais... Parce qu'il y a un mais, ils auraient dû en choisir une autre parce qu'elle spoil déjà une partie de la.
Oui. Moi, je suis pas fan. Enfin, j'aime beaucoup Essad Ribic en général en tant que cover artiste. Là, j'étais un peu déçu. J'ai pas trop été très fan de celle qu'il a faite. Par contre, celle que fait Paolo Rivera derrière, pas toutes, mais celle qui imite le côté estampe japonaise et compagnie était assez réussie. Elle avait une certaine classe. Non, pas fan.
Celle de gauche, oui, celle de droite, non.
Ah ouais, moi, c'est l'inverse. Bon,
ben voilà, écoute, hein, chacun
on n'est pas forcément d'accord. Bref, Daredevil est une série qu'on continue à suivre avec passion. Je suis un peu moins à fond que dans les précédentes histoires, mais ça reste à un très bon niveau.
Ça reste je trouve que le niveau remonte.
Ah ouais, tu trouves que ça remonte ?
J'étais quand même plus,
oui, c'est vrai.
Plus mitigé sur les précédents tomes. Là, vraiment, je trouve que ça remonte parce que l'histoire vraiment prend une tournure très intéressante.
Mais on se rapproche plus. J'ai eu l'impression, surtout dans la deuxième histoire, que c'était une histoire qui était plus écrite pour du Iron Fist que pour du Daredevil.
Je suis d'accord. Maintenant que tu le dis, oui. C'est vrai qu'on pourrait voir quand même un gros lien entre les deux personnages là d'un coup.
Voilà, et ça m'a un peu fait étrange. Alors après, je dis pas que c'est mauvais. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir encore à le dire, mais. Bah, On verra comment ça va évoluer. Puis de toute façon, cette série garde un très bon niveau.
Je pense que c'est quand même une vraie. Enfin, c'est un vrai désir de Marvel, quoi. Ça reste quand même une série phare. Il faut.
Et oui, enfin phare, non, critique, au niveau des critiques, pas au niveau des ventes. Maintenant, sachant que Quesada ne gère plus le côté éditorial, est-ce que Daredevil va continuer à maintenir ce niveau, sachant que c'était un de ses personnages fétiches? On le verra bien. Seul l'avenir nous le dira.
Eh bien, tout de suite.
Oui, nous allons parler du sujet chaud.
L'instant chaud.
C'est pour ça qu'on a pris du tipon, c'est pour se préparer psychologiquement.
On va parler donc de Celluloid, de Dave McKean. Un roman graphique
érotique.
Érotique.
Qui est chez Delcourt. Dave McKean. Alors, moi, j'ai écrit Dave McKean sur un bouquin, je l'achète. Quel que soit le genre, quel que soit le style, car je suis un grand fan de cet artiste. Je ne peux pas dire dessinateur, illustrateur, cet artiste, qui est un artiste complet. La couverture, en plus, là, est superbe. Moi, je suis toujours un grand fan. Et là, donc, il a fait une histoire érotique. Donc c'est un beau pavé. Ça nous conte l'histoire d'une jeune femme qui rentre chez elle, qui appelle apparemment son mari, mec ou je ne sais pas quoi, qui en gros est coincé, elle ne peut pas bouger, il se donne rendez-vous, quoi. Et elle trouve un vieux projecteur de film qui a l'air d'être du 8 mm.
Ouais.
Et elle regarde, commence à regarder le film et à rentrer à l'intérieur de ce film. Et dans l'intérieur du film où elle est, elle va avoir un autre endroit. Et on la voit qui rentre dans ses fantasmes les uns aux autres. Et plus elle va avancer dans ses fantasmes, plus ils deviennent proches de la réalité. Aussi bien graphiquement. Enfin, surtout graphiquement. C'est un bouquin. Enfin bon. C'est Dave McKean, moi je suis fan. Vas-y, avant que je dise tout le bien que j'en ai pensé, parce que je suis fan de Dave McKean.
Alors, déjà, une première question que je posais, c'est est-ce que si c'était pas Dave McKean, est-ce que tu l'aurais autant apprécié?
Je pense que déjà, je ne l'aurais pas acheté. Voilà.
Première chose.
Déjà, pour commencer, si ça n'avait pas été
Dave
McKean.
Maintenant, voilà, on te le met entre les mains et on ne te dit pas que c'est Dave McKean.
Ah ouais, non, je l'aurais autant apprécié. Il y a un travail graphique, il y a une recherche esthétique qui est superbe.
Recherche esthétique ou il y a un travail technique aussi?
Les deux. Les deux. Il y a une recherche. Il n'y a pas. Disons que au niveau du sens, c'est vraiment une avancée en profondeur dans le fantasme. C'est ce qui est c'est ce qui est mis en scène dans le fantasme de cette femme qui attend, en fin de compte, qui attend l'homme qui finira par arriver à la fin pour découvrir le résultat de ce fantasme entre guillemets. Alors effectivement. J'avoue, sur tous les passages au niveau du dessin premier, ça peut un peu perturber. Dave McKean a un style au niveau de ses dessins ancrés classiques qui peut un peu perturber, qui n'est pas forcément clair. On n'est pas dans du Manara avec ce truc très souple, très érotisant dès le départ. Là, on a quelque chose d'un peu plus brut, un peu plus rigide dans le trait. Mais une composition globale de l'image qui est très réussi. Mais je veux ton avis à toi.
Non, mais moi je fais parler dessus en cette histoire. Voilà.
Vas-y.
Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui traitait de l'érotisme, du fantasme. Alors pour une fois féminin,
ouais.
Pas masculin, et un fantasme là qui était sans vulgarité, quoi, tout en volupté, tout en douceur, quelque chose qui.
C'est un point qui m'a marqué, c'est-à-dire que alors que on a du sexe visible, du gros plan sur du sexe, on n'a jamais, et des actes sexuels très osés, de la fellation, etc., ce n'est jamais vulgaire. C'est toujours sensuel.
Je valide.
Tu valides. Et donc, tu as bien aimé, ça t'a...
Bon, disons, l'histoire en elle-même ne m'a pas passionné. Maintenant, oui. C'est vrai que moi, je suis pas autant fan que toi de Dave McKean, mais surtout ce qui m'a laissé à peu près bouche bée, c'est le mélange des techniques, le travail qu'il y a sur les doubles pages, sur les cases, sur tout le mélange qu'il va faire entre tout ce qu'il sait faire. Et bon, voilà, ce gars-là, c'est un artiste, quoi. Et ça m'a laissé, mais des fois, j'étais pantois.
Et ça reste narratif, c'est-à-dire que même si c'est quasiment que des pleines pages, ça reste narratif. Il y a vraiment une case ne suffit pas en elle-même. On a besoin des cases, des pages qui suivent derrière. Alors, quand je parlais du style, en plus, ce que je trouve génial, c'est que dès la première page, on démarre. Il fait une entrée en matière en douceur. On voit cette femme qui rentre chez elle et on voit toutes les informations techniques, genre du même auteur, un livre, etc., qui sont entrées dedans. C'est muet, il n'y a aucun texte en dehors de ces informations techniques. Et on voit tout ça qui avance. Par exemple, quand on voit la femme qui appelle l'homme, on voit juste une bulle qui sort de sa bouche et le dessin de l'homme. Pareil, quand on voit à la fin l'homme qui appelle la femme, on voit juste une bulle et le dessin de la femme. Et il y a ce côté voluptueux, ce côté du style, c'est-à-dire que voilà, quand on rentre dans le film, il commence au premier abord à changer de graphisme. Alors qu'il était sur un style au trait ancré, dès qu'on rentre dans le film, il arrive sur un style au crayon et avec de la colorisation derrière. Et plus on avance, plus il va changer son style, passer sur d'autres styles, mélanger de la photo, mélanger des montages, et un travail sur la couleur, sur la forme, et des choses qui, autrement, pourraient paraître très vulgaires, qui ne le paraissent pas. Donc c'est vraiment... et puis, on est parfois vraiment dans le... Puis plus on s'approche de l'orgasme, plus les corps qui se déforment, qui...
Ça, c'est le passage qui m'a fait penser un peu du Picasso, en fait.
Oui.
Par la déformation des corps, ça sert à... C'est une légère, enfin, je trouve que t'as quand même une belle ressemblance.
Et puis ce travail sur la photo, moi j'adore le travail qu'il a sur la photo avec ses coupages, ses découpages, ses collages en général.
Les couleurs.
Voilà, avec là en plus il a apporté surtout ses traits sur ses retouches photo qui sont dans les rouges orangés. Il a apporté quelque chose de neuf avec l'homme qui est représenté par un dessin avec un très haut contour blanc et un côté dans le bleu, alors que c'est de la photo quand même. Je suis fan. Faut aimer le genre aussi, hein, faut y être sensible. C'est un très très bel objet, une très belle BD. Et pourtant, voilà, je crois que c'est la première BD érotique que je dois acheter.
Oh mon Dieu.
Voilà.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est
les rabats de la jaquette
qui sont même l'arrière en fait, un quatrième de couve. Donc c'est un corps de femme en fait qui est vu au travers du, je pense, une sorte de tissu.
Ouais, de tissu opaque ou de vitre.
Je pense un tissu opaque. Ouais. Un tissu en fait plus, parce que du coup ça prend la forme. Voilà. Enfin bon, c'est un bel ouvrage, très technique. Alors certains diront quand même que pour un code de prix de DE55, c'est un peu cher.
Ça doit être dans les 25 euros, je pense.
Alors c'est peut-être un peu cher pour certains. Maintenant, si on est fan de Dave McKean et surtout si on aime bien le travail graphique, c'est vraiment un ouvrage déjà juste à regarder et puis sinon à acheter pour prendre plaisir justement à regarder tout ça, quoi.
Jetez-y un œil rapidement chez votre libraire et ensuite, c'est un bouquin qui est plus long qu'il n'y paraît à lire. Il n'y a pas de texte, mais on reste sur les images.
Et maintenant,
on va passer sur quelque chose d'un peu moins tendre.
Oui,
plus narratif, avec plus de texte, plus littéraire.
Beaucoup plus littéraire, parce que là, il faut des références. Hein.
The Unwritten. De Mike Carré et Peter Gross, qui a été sous-titré en français « Entre les lignes », qui est un sous-titre pas trop mal. Le premier tome se nomme « Tommy Taylor, identité factice ». The Unwritten est une bande dessinée de chez DC Vertigo, donc une bande dessinée d'origine américaine. Ce tome-là regroupe 5 tomes de l'œuvre originale, avec une introduction de Bill Willingham, le créateur de la série Fable. Une introduction très très sympa, l'as-tu lu ?
Oui.
Une introduction où il s'amuse à faire une sorte de cartographie du genre fantasy, et à parler des différents types de genres fantasy, qui est un genre assez rare en fin de compte dans la BD américaine. Et c'est très très bien écrit, ça donne envie de continuer, de se lancer dans la BD. On a des superbes couvertures, je tiens à le signaler, de Yuko Shimizu, qui sont vraiment très très jolies, qui mettent dans le ton et qui donnent envie de se plonger. Que raconte The Unwritten ?
Alors là, de souvenirs comme ça, de but en blanc, moi j'ai une grande histoire de Rudyard Kipling.
Ça, c'est la dernière, ça.
C'est, ben voilà, j'ai dit comme ça, de but en blanc, ce qui me revient.
T'as tes cases mémoires qui ont été remplies. T'as,
ben, écoute, rempli au petit
ponche. T'as vidé ton buffer.
Elle était remplie au petit ponche et il me reste que ça, en fait.
Donc, The Unwritten raconte l'histoire de Tom Taylor. Tom Taylor, qui est le fils d'un grand auteur de roman.
Ça y est, oui, c'est revenu. Un peu à Harry Potter.
Voilà, un peu à Harry Potter. Même si Mike Carey annonce qu'il s'inspire plus au niveau des livres qu'a écrit cet auteur-là, de The Book of Magic, qui est aussi une bande dessinée chez Vertigo, qui avait été scénarisée par Neil Gaiman. Pour les premiers tomes, en tout cas. Donc, des romans à Harry Potter, et dont le héros s'appelle Tommy Taylor. Sauf que le fils de l'auteur, c'est Tom Taylor. Pas exactement pareil. Et donc, on commence par une convention... Une convention Tommy Taylor.
Ah, en fait, l'auteur a disparu.
Oui.
L'auteur a disparu. Et en fait, il y a le fils qui du coup, on va dire, vit de l'œuvre de l'œuvre de son père hein, en allant de convention en convention, signant des autographes. Alors que bon, lui, finalement, vis-à-vis du livre.
Ouais, son père a disparu. Enfin, ce qui choque plutôt les gens, c'est que imaginez que J.K. Rowling hein, ait disparu à la fin du tome 6 d'Harry Potter. C'est un peu ça qui s'est passé dans ce bouquin.
Oui, parce qu'il manque la suite. L'histoire n'est pas finie.
Ils sont arrêtés au tome 13. Et donc, bon, bah, c'est un petit peu Tommy Taylor avec son manager qui suit l'affaire. Et il est victime d'une sorte de malade qui se prend pour le grand méchant des romans d'origine, qui essaye de buter, qui l'enlève, etc.
Ressemble un peu à Nosferatu.
Oui, qui ressemble à Nosferatu. Et tu as une jeune femme... Lizzie Exam,
qui semble tout savoir un peu comme Hermione,
ouais, qui semble bien le connaître surtout,
qui semble trop le connaître,
ouais, et qui vient lui donner un coup de main. Et là, petit à petit, commence à se poser la question, car pendant cette convention, cette jeune femme pose une grande question. Mais votre numéro de sécurité sociale est factice, vous n'existez pas.
Est-ce que vous êtes vraiment le fils de l'auteur?
Et là, Tom Taylor commence à se poser aussi la question et décide, malgré les réticences de son manager,
de poser des questions.
Et d'aller se renseigner. Sachant que le seul truc que Tom Taylor a gardé de son père, c'est quelque chose que son père l'a forcé à apprendre, c'est une cartographie de l'imaginaire. Une cartographie de la littérature. C'est-à-dire que il peut dire d'un endroit dans le monde si on en a parlé dans un roman, et qu'est-ce qui s'y est passé. Donc ça peut aller du classique 221B Baker Street, mais aussi, il sait que tel endroit a servi d'inspiration pour 1984, pour les bureaux qui apparaissent. Chose qu'il connaît par cœur, mais il ne sait pas à quoi ça sert, parce que c'est trop minable. Et donc, il se retrouve un petit peu embrigadé dans une affaire qui le dépasse un peu. Et puis, on ne va pas en raconter plus, parce que ça serait révéler beaucoup de choses. Il se passe quand même pas mal de trucs dans ce premier tome, même si, en fin de compte, on sait pas grand chose à la fin.
Donc à la fin, on va dire, on est quasiment au même point qu'au départ, sauf qu'on a beaucoup plus de questions.
Même si la dernière histoire présente
commence à te donne
un peu des réponses.
Enfin, des idées de réponses.
Des idées de réponses. Dans la dernière histoire, qui est un peu particulière, on a l'histoire de Rudyard Kipling, qui en fait est approché, qui est un jeune écrivain peu connu, et qui est approché par quelqu'un qui lui dit « Vous devriez écrire pour nous, en gros ». Et en fait, on lui fait écrire certaines choses. Et donc, on se rend compte qu'en fait, il existe des personnes qui essayent de manipuler les écrivains pour influencer l'imaginaire collectif. C'est ce que j'en ai compris, en tout cas.
C'est exactement ça.
Et Rudyard Kipling qui les aide et qui commence à vouloir se rebeller vis-à-vis d'eux et qui se retrouve à un adversaire très, très coriace. Très, très coriace.
Alors, on croise aussi quand même d'autres figures de la littérature, parce qu'on croise aussi Oscar Wilde.
Et oui.
Voilà, toute l'histoire, on va dire... utilise quand même des références sur la littérature anglaise qui sont quand même assez, assez velues. Quoi.
D'ailleurs, le Oscar Wilde est très très bien dessiné, je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Non, c'est vrai.
C'est pas difficile à reconnaître quand même.
Ouais. Ah, pourtant, il n'était pas de dos. Et... Donc, que penser de cette bande dessinée? Bon, graphiquement, c'est le minimum. C'est correct, ça passe bien, c'est efficace. Un peu plus sur la dernière histoire, parce qu'il y a un travail sur l'ancrage qui essaie de se rapprocher un peu de la gravure, des dessins qui sont un peu plus riches. Mais sinon, bah, voilà, c'est correct sans plus, ça tient la route. Ça m'a donné un peu l'impression de ce qu'on pouvait avoir sur Y, le dernier homme, un dessin au service du scénario, sans forcément le transcender.
Je suis assez d'accord. D'accord. Par contre, au niveau du scénario.
Ouais, au niveau du scénario, vas-y, je t'écoute.
Moi, j'ai eu un... Alors là, du coup, je vais sortir une référence, mais je suis même plus sûr. Moi, ça m'a fait penser à Neverwhere.
Oui, de Neil Gaiman.
Ouais. Où tu as justement le mélange entre une réalité et une fantasy, enfin, un univers fantastique qui est sous-jacent à la réalité, quoi.
Ouais.
Moi, ça m'a fait penser beaucoup à ça. Et on va dire que je suis très, 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 très en question par rapport à la suite. Parce que voilà, pour moi, c'est un peu une référence à ça. Il va falloir quand même qu'ils assurent derrière, parce que sinon, ça va être vite du n'importe quoi.
Bah, j'ai trouvé ce tome très introductif. C'est-à-dire qu'il allèche, il donne envie de savoir ce qui va se passer. Mais je me dis, il va falloir que ça assure sur ce qui va suivre, parce que pour le moment, il n'y a rien de grandiose, en fin de compte.
C'est ça.
C'est plein de pistes super intéressantes et super intrigantes. Mais maintenant, il va falloir voir comment est-ce que ces pistes vont être résolues. Et puis, comme en plus, c'est une série à suivre, c'est une série qui ne s'arrête pas, comment est-ce que le scénariste va réussir à faire durer son histoire ? Parce que pour le moment, ça ne semble pas évident. Des pistes commencent à apparaître sur comment il peut la faire durer, mais ça reste assez léger. Franchement, je pense que c'est quelque chose à lire et à suivre. Voilà, faut se faire son idée. Attendez peut-être qu'on ait dit ce qu'on pense du tome 2, si vraiment vous voulez faire attention à notre avis. Mais moi, je suis très intrigué, j'ai envie d'en apprendre plus.
Eh bien, on verra. Et donc maintenant, une fin de série.
Oui.
The Last Day of American Crime, le tome 3. Le dernier.
Chez Emmanuel Proust.
Édition. Alors donc toujours avec Rick Remender donc au scénario et Greg Tocchini au dessin.
Bon, et alors là, graphiquement, on a déjà parlé des deux autres tomes, c'est toujours aussi beau. J'adore, c'est graphiquement superbe. Scénaristiquement, le cast du siècle est en train d'avancer. Ils vont pouvoir enfin le faire.
Graham et son équipe y sont.
Voilà, ils ont réussi à régler les problèmes qu'ils avaient. Enfin, ils y arrivent au début du tome à régler les problèmes qu'ils ont avec la concurrence, entre guillemets. Et ils vont pouvoir lancer leur affaire. Et là, que va-t-il se passer ? Ben, on ne va pas tout vous raconter, car bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu.
Voilà, on va dire qu'il va y avoir
des revirements de situation.
Des revirements de situation. On est un peu, moi, je trouve que ça m'a fait penser un peu à la fin à l'arnaqueur.
L'arnaqueur, oui, ou les à la Oceans aussi.
Enfin, si on parle des trucs plus récents, mais enfin, voilà, le premier, c'est l'arnaqueur.
Oui, oui. L'arnaque.
L'arnaque, pardon. Voilà. Mais l'arnaqueur, c'est avec Romain Duris.
Ça n'a rien à voir.
L'arnaque, pardon.
Donc.
Par contre.
Ouais.
Vas-y, parce que c'est toi qui va commencer là-dessus. Donc, au fait, oui, c'est au prix de. Pour la modique somme de 14,95€.
Oui, je vois où tu reviens sur le par contre. Bon, c'est une belle édition, mais ça fait cher.
C'est une belle édition, mais alors là, franchement, les gars. Alors. Autant sur les deux premiers, on avait quelques bonus qui étaient des vrais bonus. Bon, sur le premier, on avait une interview, c'était pas extraordinaire, mais bon, c'était déjà intéressant.
Sur le deuxième, on avait des croquis.
Des croquis, bon, ok, il y a un vrai travail, ça va. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais on peut se dire ça vaut un peu le prix. Là, les bonus.
C'est les couvertures qu'on a déjà, en fait.
C'est les couvertures des tomes précédents. Et là, tu te dis, oh les gars, vous me prenez pas un peu pour des cons quand même.
Ah, et si, on a deux dessins qui sont inédits. Ouais. Ah ouais, on a quelques-uns, 5 dessins qui sont inédits.
T'as 5 dessins qui sont inédits, excuse-moi, mais c'est du foutage de gueule, quoi.
Ouais. Voilà, moi j'étais assez déçu par ça. Ça aurait mérité une édition en intégrale. Peut-être plus cher au final, mais là, 15€ le tome.
Attends, ça te fait quand même une trilogie à presque 45€.
Ouais. Pour un petit format.
Pour un petit format, t'as pas non plus 40 000 planches.
Disons que tu as plus de couverture que de BD, quoi, au poids.
Ouais, c'est ça. Au poids, tu as plus de couverture que de BD.
Voilà, donc c'est un peu dommage. L'édition est belle, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je pense que pour le portefeuille des lecteurs, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Mais qu'as-tu pensé de la conclusion, quand même ? Ça t'a plu ? Ça t'a branché ? T'as trouvé ça...
La conclusion est sympa. L'histoire se termine plutôt bien. Moi, ouais. J'ai trouvé. C'était une bonne fin. Sachant en plus que, de toute façon, un film est prévu.
Oui.
En 2000, normalement, sorti en 2012. Donc, alors là, par contre, les acteurs, je ne sais pas qui ce sera, mais... Voilà. Moi, c'était quand même... La trilogie est intéressante. Un peu cher. C'est le gros défaut. Mais sinon, c'est clair que... Le dessin, moi, m'a vraiment scié, quoi.
Oui, oui. Tokini a vraiment un style assez phénoménal. Bref, ça vaudrait le coup d'être réédité en intégrale un petit peu moins cher.
Je pense qu'il pourrait faire un effort. Mais bon, en même temps, c'était, je crois que c'est quand même un des premiers trucs aussi que Emmanuel Proust sort dans ce type-là, quoi.
En BD américaine,
ouais.
Il me semble, ouais.
Donc voilà, peut-être aussi c'est le début, ils ont eu peur de se lancer, peut-être qu'après ils essaieront de renier un peu sur les marges.
Enfin, je dis une bêtise, non, Emmanuel Proust ont déjà lancé des trucs en BD américaine, on a Tell Me Dark par exemple, qui est dans la même collection, Atmosphère.
Bon, bah alors dans ce cas-là, ils n'ont aucune excuse.
Qui était aussi peut-être pas donné, je me souviens plus. On en reparlera, tiens, de ces quatre, ça serait bien que je leur sorte pour un rattrapage.
En fait, Emmanuel Proust, c'est une édition de luxe.
Oui. Oui, oui.
C'est pas pour les prolétaires, c'est pour les bourgeois. Et maintenant,
La légende des nuées écarlates, tome 4. La fleur cachée de l'abomination.
Et là, c'est la fin.
Saverio Tenuta.
Et donc là, c'est la fin. Toujours chez les humains des associés.
Et c'est la fin. Nous arrivons à la conclusion de notre histoire. Tout a été lancé. Toutes nos enquêtes sont lancées. On arrive sur le gros final. Donc, c'est de l'action quasiment non-stop. Hein.
Ouais.
Avec tous les fils de l'histoire qui se dénouent. Rappelle-nous l'histoire de Légende des Nuées Écarlates.
Que je me souvienne bien, Raido, donc le samouraï justement qui a les deux épées qui s'appellent les Nuées Écarlates, veut se venger. Alors attendez, là il faut que je retrouve le nom.
Tu veux un time warp
de la fille de Tokeku Fujiwara. C'est donc Rin. Il veut donc se venger.
Les noms asiatiques, c'est toujours difficile.
Ouais,
hein.
C'est toujours difficile. Il veut se venger donc de Rin, donc qui était son amour de jeunesse.
Ouais.
Sauf que celle-ci est passée, on va dire, du côté obscur et a même permis à un personnage qui avait déjà disparu dans un tome précédent de revenir.
D'accord.
J'ai spoilé. Et voilà. Donc là, c'est la bataille finale. Donc il va y avoir la bataille de Rin contre le monstre. Il va y aussi avoir la révolte des paysans qui souffrent depuis longtemps du diktat justement du shogun. Graphiquement. Je me suis régalé.
Oui.
Scénaristiquement, moi j'ai vu la fin de Princesse Mononoké.
Ouais.
Voilà, pour ceux qui ont vu l'animé. Voilà, pour moi c'est la fin de Princesse Mononoké. C'est ouais, ça y est, finalement on a réussi à battre et le dieu de la nature est revenu.
Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a un peu du vert dans ce tome-là. C'était une couleur très peu présente jusqu'ici. Moi, j'avoue que c'est une série que j'ai appréciée graphiquement. Là, rien à dire. C'est un très beau dessin, mais que je trouve très confuse d'un point de vue scénaristique. Je me suis beaucoup perdu. Alors, je sais pas si parce qu'il aurait fallu que je relise les tomes précédents, mais d'un point de vue scénaristique, j'étais vraiment largué.
Alors, c'est clair que. Moi, personnellement, l'avantage c'est que j'avais les 4 tomes à la maison, donc pour relire les 4, le 4e, j'ai pris le temps de relire les 3 premiers avant.
Ah, ouais.
Et en lisant dans la continuité, tu n'as aucun problème de compréhension. Rappelle-toi que quand j'avais parlé du tome 3, justement, j'avais dit que je n'ai pas relu, ou il me semble un truc dans le style. Et là, c'est vrai que j'avais vachement galéré, quoi. Parce que l'histoire est quand même très complexe. On fait beaucoup référence justement au dieu.
L'histoire n'est pas très complexe, mais disons qu'il y a un enchevêtrement d'intrigues, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et si on n'a pas les racines de l'enchevêtrement, on a du mal à suivre les fils pour comprendre qui est qui fait quoi.
Si tu lis vraiment les cas dans la continuité, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Autant pour les yeux qu'au niveau du scénario. Alors certains, peut-être qu'on a... Il y a des moments où je pense que j'ai pas eu les références pour comprendre certains, on va dire, certains fonctionnements dans la logique japonaise.
Ouais. Après, c'est d'inspiration japonaise.
C'est d'inspiration.
C'est pas le Japon historique.
C'est pas du Japon historique, ça, on est bien d'accord. Maintenant, il y a peut-être un style de pensée aussi qui peut être particulier à des moments. Sur les choix qui sont faits par les héros, moi, il y en a certains, j'ai trouvé un peu. Ça m'a fait un peu tiquer. Maintenant, après, pour le reste, je trouve une très bonne histoire.
Voilà. Très bonne histoire.
4 tomes, un graphique splendide. Voilà. Moi, je me suis régalé. Voilà, c'est, donc maintenant, c'est terminé.
Voilà. Donc, en gros, à ne lire, bien sûr, que si on a dit les précédents, et mieux vaut lire les trois précédents pour enchaîner, quoi.
Donc voilà, ça vous fait juste une collection à donc 13 euros le tome, hein, 12,90. Donc ça fait seulement à 52 euros, donc avec The Last Day of American Crime, je vous ai déjà dépensé 100 euros. Et ben voilà, bonne journée à vous.
Voilà. Et puis on continue sur du gros tome en plus.
Sur du gros tome.
Mais là, c'est du rattrapage. Ouais. Parce que c'est vieux.
La Légende des Nuits Écarlates, c'est pas tout récent non plus. Hein.
Ouais, enfin, le tome est le dernier tome. On a déjà parlé de Frederick Peters. En parlant de Coma,
ouais,
qu'on avait bien aimé. En parlant de Château de Sable,
aussi,
qu'on avait trouvé sympathique, même si on n'était pas forcément d'accord sur la fin. Et bah, en fait, on m'a parlé d'autres bouquins de Frederick Peters en disant, mais il a fait d'autres trucs vachement bien chez Atrabile, dont les pilules bleues.
Pas les pilules oui. bleues.
Pilules bleues. Et pilules bleues, c'est de l'autobiographie. Et c'est de l'autobiographie. Waouh!
Ouais. Alors là, par contre, très honnêtement, je ne sais pas comment ne pas raconter l'histoire. C'est en fait spoiler, parce que ça va être très compliqué. Hein.
Oui. C'est pas grave. Alors... C'est une histoire qui... Enfin, on peut raconter le départ, je veux dire, l'intrigue principale, et ensuite la chute. Il n'y a pas de chute, donc ça va.
Ouais, enfin, bon, moi, j'ai lu l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait, bon, il y avait des... J'ai trouvé que l'histoire était... Splendide.
Bon, la base, vas-y. C'est Frederick Peters qui nous raconte sa rencontre et sa vie. Il a découverte de la vie de couple avec une jeune femme séropositive qui a un enfant qui est lui-même qui est aussi séropositif. Et donc, toutes les difficultés,
pas les difficultés, c'est tous les. Tous les petits obstacles de la vie quotidienne.
Les petits obstacles du quotidien.
C'est pas une difficulté.
Je pense plus pour elle que pour lui, mais lui a l'air de le prendre étonnamment sereinement. Il se pose des questions, mais quoique le rhinocéros blanc est une image très 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 forte.
Voilà.
En gros, on lui explique à un moment qu'il a autant de chances d'y passer que de rencontrer un rhinocéros blanc dans la rue. Et on a l'image du rhinocéros blanc qui revient plusieurs fois. Avant de revenir sur l'histoire, qui, bon, vous l'aurez compris, nous a plu. Le style graphique. Donc, c'est du Frederick Peters, mais lâché. Qui se lâche. Il a écrit ça en même temps qu'il vivait certains des événements, apparemment. C'est-à-dire qu'il parle dans sa bande dessinée du fait qu'il est en train d'essayer de prendre des notes pour essayer de monter cette bande dessinée qu'on est en train de lire.
Monter son histoire.
Comment la raconter voilà. Et d'un point de vue graphique, bah, c'est du Frederick Peters, mais beaucoup moins au cordeau. Quand on regardait Château de Sable, il y a un trait qui est très droit, très précis, très lisse. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus franc, beaucoup plus brut. On dirait que ça a été plus ancré à la plume. On voit limite les traits de plume derrière. Les cases ne sont pas droites. Et je trouve que c'est vachement mieux.
c'est un style qui convient parfaitement à ce qu'il raconte. Parce que je pense que c'est justement ça qui crée la proximité avec le dessin. Parce que tu as un sentiment de fraîcheur, quoi.
Et puis surtout une découverte d'un point de vue scénaristique. De ce qu'est la séropositivité de nos jours. J'ai découvert de ces trucs en le lisant. En fait, on ne sait pas. On n'est pas au courant, on n'a aucune info. Et c'est traité avec une douceur, une tendresse. On sent un amour. Puis là, au-delà de la séropositivité, par exemple, il va y avoir la relation de quelqu'un qui rentre dans la vie d'une femme.
Et qui a déjà un enfant.
Quelle relation est-ce que je vais construire avec cet enfant ? Et ça, je pense que c'est totalement universel qu'il y ait de la séropositivité ou qu'il n'y en a pas. Les questions de se dire, je vis avec quelqu'un alors qu'il n'est pas encore malade, mais qui pourrait le devenir, qu'est-ce que ça implique sur ma façon de voir l'avenir ? Et enfin, c'est une belle BD, quoi. C'est un beau pavé, c'est du noir et blanc, hein, précisons-le. Il y a 190 pages, ça date de 2001, donc là on rattrape quand même de 10 ans. J'aimerais bien savoir. Enfin, après, c'est la curiosité. Je sais pas si la suite.
Je sais pas. Moi, quand je l'ai lu, c'est vrai que j'ai eu des moments qui étaient un peu. J'ai été touché par l'histoire, touché par les sentiments donc de l'auteur.
Ouais.
Parfois même un peu triste. Enfin, moi, j'ai partagé ces moments d'angoisse de manière un peu. J'étais ouais. triste pour lui. Et quand on va dire quand je l'ai vendu à ma femme, au final, elle m'a plutôt dit non, mais c'est une sorte d'histoire du bonheur. C'est comment il traite un sujet il traite un sujet très dur, mais c'est un hymne à l'espoir pour par rapport à tout ce que nous on a entendu jeune sur le SIDA quoi. C'est,
oui, effectivement.
Et c'est vrai que bon, en discutant avec elle après, c'est vrai que j'ai eu un autre regard sur l'histoire. Et c'est vrai que là où peut-être j'ai vu de la tristesse, c'était peut-être pas vraiment de la tristesse, c'est autre chose. C'est vrai que j'ai peut-être pas réussi à mettre les mots dessus au début, mais une histoire, voilà. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu la taille du pavé, je me suis dit bon, je mets du temps à le lire.
Oui, surtout que le sujet à première vue.
Le sujet, en fait, quand je n'étais pas au courant du tout, tu débarques à une page et tu fais waouh.
Ah, tu ne connaissais pas du tout.
Pas du tout. D'accord. Et j'ai dû lire ça en peut-être allez, trois quarts d'heure, parce que j'ai plongé dedans, mais j'ai plongé dedans. Vraiment, voilà, un vrai coup de cœur et une émotion, une aventure mémorable.
C'est une collection. La collection s'appelle Flegme chez Attraville. Il y a un peu de ça. Hein.
C'est un peu ça.
C'est une collection qui me donne bien envie. Ça me donne envie de lire Lupus. Alors là, il y a quatre tomes hein, pour le coup. Il y a le dernier Grand Prix d'Angoulême qui 5000 km par seconde qui est dans la même collection. C'est une collection qui a l'air vraiment super sympa. J'avais jamais acheté de bouquin chez Attraville, tu vois. Je crois pas. J'avais peut-être fait une connerie.
Il faut bien se rattraper un jour. Hein.
Puis surtout que 20 euros pour un chef-d'œuvre pareil.
Comparé à d'autres trucs qui coûtent 45 euros les 20 pages. Hein,
même si c'est très bien.
Même si c'est très bien.
Et puis en plus, vous pourrez voir le héros sur un mammouth. Et c'est pas dans toutes les BD qu'on peut voir ça.
C'est vrai. Vraiment, ouais. Voilà, une belle histoire à lire.
Pilule Allez. Bleue, c'est bien. Mangez-en. Hors sujet.
Alors là,
non, meilleur du mieux d'abord.
Meilleur du mieux. Oh, bah écoute là.
Pilule bleue.
Ah, écoute, attends, ça fait quand même deux émissions qu'on est au taquet. Hein.
Ah ouais.
On est sur le même choix.
Disons que.
Bah, en fait, ouais, voilà, tu vas me dire, il n'y a pas de concurrence, c'est ça que tu veux dire? Ah, t'as le Dave McKean, toi, quand même. Et oh, vu comme tu m'en parles depuis le début.
Oui, il y a le Dave McKean. Maintenant, le truc, c'est que le Dave McKean, c'est un beau livre, mais c'est une histoire légère. On est dans de l'érotisme, c'est une histoire qui est légère, qui est un vrai plaisir pour les yeux, mais Pilule Bleue, c'est un vrai plaisir pour le cœur. T'as vu un peu comme je parle bien?
Écoute, là je suis presque à te verser une larme.
Voilà.
Ça doit être le petit bon chien.
Versons une larme sur notre hors-sujet, nous allons parler de Tron. De Tron, le jeu, et de Tron,
l'héritage.
Le film. On va parler d'abord du film.
Vas-y,
c'est ce qui a inspiré le jeu.
Bah écoute, c'est peut-être de ceci explique cela.
Eh bien, je peux pas dire que Tron, le film, soit totalement mauvais. Je peux pas dire non plus qu'il soit totalement bon. Parce que Tron, pour moi, c'est le souvenir enfant d'un film grandiose, avec des effets spéciaux phénoménaux. Je les revois maintenant, c'est autre chose. Et puis ensuite, j'ai lu des trucs dessus. J'ai découvert qu'en fait, le game design qui avait été développé dans le film, les jeux n'existaient pas, et quand ils les ont fait, en fait, ça marchait trop bien. Puis il y avait Mobius qui avait travaillé dessus. Et puis, enfin, voilà, un truc énorme. Et là, ils nous sortent Tron, le film. Et là, j'ai eu un gros problème. Donc, le premier Tron était un film qui parlait de société. Le premier Tron, la thématique, c'était un sujet de société. C'était la tentative de prendre le contrôle sur tous les autres d'une seule personne. C'était un film sur la dictature, qui en plus, avec la suite, a été limite, on va dire, devin vis-à-vis de ce qui s'est passé vis-à-vis du logiciel, avec Microsoft par exemple. Avec tout ce qui était monopole sur le logiciel. Le premier Tron, c'est quand même un programme. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Le premier Tron, c'est quand même un programme qui veut enlever la liberté de tous les autres programmes pour tous les contrôler.
Oui, enfin là, tu tires à boulet rouge sur Windows, quoi. Enfin, sur Microsoft.
Je tire pas à boulet rouge sur Microsoft. Je te dis que c'est comme ça que ça m'est apparu en le voyant. Je pense pas que ce soit la thématique qu'il voulait montrer, mais il parlait du danger de la dictature. Parce que tu es le maître contrôle principal, c'était quand même le nom du méchant ordinateur, mmh. et la grosse entreprise qui volait son logiciel au petit créateur. C'est quand même.
Ouais, mais enfin, c'est Microsoft n'a rien volé.
Non, mais voilà, je te parle de situation de monopole.
Bon. Si, ok. Voilà. Ok pour la dictature et le monopole.
Bon. Le deuxième film, tu te dis, oh, la technologie a avancé, ils vont peut-être aller continuer dedans. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font ? Un film de quête du père, un film familial et qui va encore plus loin. La thématique m'a semblé religieuse. Mais avant de parler du fond scénaristique, on va parler des trucs qui sont réussis dans le film. L'image est sublime. On a vraiment des effets spéciaux superbes. Alors je ne l'ai pas vu en 3D, mais en 3D ça doit être encore foutre plein la vue. Mais l'image est vraiment magnifique. Le son, la musique des Daft Punk, alors ils n'ont pas tout écrit, mais ils ont écrit les thèmes, etc. est génial. Il y a une influence par rapport au thème original qui est très bien menée. C'est super. Parlons des choses qui sont des maladresses. Ouais, les Daft Punk ont fait la musique, alors ils nous ont fait une scène en boîte de nuit où on a les Daft Punk qu'on voit jouer, alors on les voit la première fois, on les voit la deuxième fois, on les voit la troisième fois, au bout d'un moment c'est bon, on a compris, c'est les Daft Punk qui sont là, ouh, c'est bien, ils sont dans le monde de la matrice. Ensuite, autre maladresse, on a un gars qui se la pète, qui se la pète trop bizarre avec sa canne, machin chose, il m'a gonflé, franchement, c'était nul. Voilà pour... Ah oui, et puis aussi la coupe au carré à Olivia Wilde, ça y va pas du tout. Voilà. Je pense que j'ai vu toutes les erreurs de base.
Ok.
Après, bon, bah, l'histoire, c'est Kevin Flynn a disparu. C'était le gars qui avait créé les entreprises Flynn.
Jeff Bridges.
Ouais, c'est Jeff Bridges. Donc ça, c'est dans le... Enfin, on l'apprend, il avait réussi à récupérer tout ça. Il a disparu pendant que son fils était tout gamin et le fils n'a pas voulu reprendre la boîte et donc c'est géré par d'autres personnes.
C'est méchant.
Ouais, enfin, qui gère ça à la Microsoft, tu vois. Genre, ils sortent une nouvelle version du logiciel où il n'y a rien de neuf dedans, mais juste ils disent que c'est nouveau, comme ça marche. Et en fait, Kevin, le fils, tous les ans, il essaie de leur faire une crasse et donc, par exemple, il met sur Internet la nouvelle version de leur Windows à eux avant le lancement, tu vois.
Donc, il y a une version qui plante ou qui plante pas ?
Non, une version, enfin, ça, ils n'en parlent pas. Et donc, en fait, Alan Bradley, qui est donc Bruce Boxleitner, reçoit un message du père, alors qu'il n'est pas censé en recevoir. Et donc, Kevin Flynn retourne dans la salle d'arcade, le fils Flynn retourne dans la salle d'arcade que tenait son père, et il fait la manip, machin chose. Il y a le laser qui leur fait rentrer dans la matrice, etc. Enfin, dans la grille, comme ils appellent ça. Bon, et là, il retrouve son père, etc. Et on apprend que le père, en fait, avait créé un programme qui s'appelait Q, qui était un programme qui était censé l'aider à rendre la matrice, enfin la grille meilleure. C'est une nouvelle grille, c'est pas la même que dans le premier, parce qu'il avait développé un nouveau truc. Et que, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des formes de vie qui émergeaient de la grille, comme par magie. Et lui a voulu les protéger, sauf que pour Q, vu qu'il a été programmé pour améliorer les choses et que ce soit le plus carré possible, c'était pas possible. Et donc il est parti en vrille, et il a empêché le père de rentrer chez lui. Voilà pour la trame, bien sûr, ça va être la rébellion. Et là, c'est au niveau de la symbolique que c'en est terrible. Parce que Q, ce qu'il veut, c'est retourner dans le vrai monde pour prendre contrôle du vrai monde, en gros, entre guillemets. Parce qu'il veut le contrôle parfait, etc., il a été programmé pour ça. Et en fait... Pour ça, il a besoin du disque, parce que tous les personnages ont un disque qui contient toutes leurs données, qui ressemble à une auréole, que voilà, il a besoin de ça pour pouvoir repartir, ouvrir le passage. Et donc on a une sorte de prophète joué par Jeff Bridges, qui se retrouve avec son auréole dans le dos, qui en fait a péché parce qu'il a créé une nouvelle forme de vie, d'accord ?
Mm-hmm.
Et qui doit payer son crime, et donc il est exilé du vrai monde, parce qu'il a péché à créer une nouvelle forme de vie. Et donc, son fils arrive pour essayer de le sauver. Et bien sûr, ça continue avec toute une sorte de thématique de... Tu sais, les formes de vie qui sont nées dans la matrice, qui sont en fait l'avenir et le futur, qui, elles, ont le droit d'exister parce qu'elles ont été créées de façon divine. Mais les formes de vie qu'a créé le héros, elles n'ont pas le droit de vivre parce qu'elles n'ont pas, tu sais, le Kevin Flynn, parce qu'elles sont pas. Bref, toute une sorte de réflexion religieuse trop étrange. Plus le film du fils qui fait la quête du père, et bien sûr à la fin le fils va décider de reprendre l'entreprise. Et là tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce film qui lui donnerait envie de reprendre l'entreprise d'un coup? Enfin, c'est du gros n'importe quoi à ce niveau-là. J'ai eu l'impression d'être trahi au niveau des idées et au niveau de la thématique générale qu'il y avait à l'origine. Mais sinon, la musique est géniale. Elle vaut le coup d'être achetée, par exemple. Et c'est beau. Voilà. Et il y a des belles scènes d'action. Un bon divertissement à voir au cinéma. Mais faut pas réfléchir.
En fait, il ne faudrait pas que ce soit Tron 2, en fait.
Voilà. Mais il y aura peut-être un 3, il y a déjà un dessin animé de prévu, etc. Les produits dérivés vont y aller à fond, dont par exemple le jeu vidéo dont tu vas nous parler.
Eh bien là, c'est un grand moment de solitude. Parce que, bon, donc moi je parle sur PS3, hein, donc c'est un jeu où en fait il faut donc accomplir des petites missions dans un monde qui n'est pas ouvert. Hein, c'est-à-dire qu'on va du point A au point B, hein, parce que c'est toujours le même cheminement qu'il faut faire.
Ouais.
Et ce cheminement se fait par des sauts. Hein. On va sauter donc de la plateforme machin qui est à l'horizontale sur la plateforme qui est à la verticale. Ah oui, parce que le personnage peut courir sur les plateformes verticales. Puis ensuite, on va utiliser des grappins, on va faire des enchaînements de sauts pour aller d'un point A à un point B.
Assassin's Creed
Oui, sauf que...
Voir Prince of Persia, peut-être plus proche.
Ouais, mais ouais. Prince of Persia, au moins, il était beau.
Ah là, c'est pas beau.
Ben, disons que c'est pas beau... Tu as vu le monde?
Oui.
De Tron.
Oui, c'est noir et lumineux.
C'est noir et lumineux. Ben, c'est pareil dans le jeu. Hein. Donc, ah, c'est-à-dire. C'est classe. Ouais, mais enfin, c'est un peu répétitif quand même.
Ah oui, non, oui, forcément.
Voilà. Donc, je n'ai fait que la moitié du jeu, je l'avoue. Je ne suis pas. Ma patience n'est pas allée au-delà.
Okay. Mais c'est quoi? C'est un jeu de plateforme donc,
C'est un Tomb Raider, on va dire. Voilà.
Ouais.
Oui, c'est une sorte de
jeu de plateforme 3D.
Jeu de plateforme 3D. Donc tu sautes dans tous les sens. Tu dois réussir des enchaînements de sauts, ce qui fait qu'à des fois tu tapes un bon nerf, tu sais, un bon.
Ça c'est bien ça.
Oui, parce que tu vois, ça fait 50 fois que tu essaies de faire la même séquence de sauts et que tu as 8 ou 10 sauts à faire à la suite. Et forcément, les 7 premiers tu réussis, c'est le dernier que tu rates. Donc,
ça c'est parce que t'es nul.
C'est ça. Et voilà. Bon, donc déjà, ça c'est pas passionnant. L'histoire en elle-même. Bon, on reprend à mon avis un peu la trame du film, hein, parce qu'il faut donc réussir à plutôt du premier, hein, il faut réussir à empêcher un programme de gouverner tous les autres.
Ouais.
Et ensuite, donc, par exemple, un épisode qui a été mais totalement pitoyable, c'est un épisode d'échappée où on prend les Lumibike.
Ouais, les motos lumières. Ouais.
Ouais. Et ben là, c'est de la grosse daube.
Quoi? Attends, tu veux parler du truc qui a été fait dans le premier film, qui n'existait pas, ils ont fait un jeu et maintenant tu le retrouves en gratos offert sur tous les trucs parce que c'est trop fun, à plusieurs surtout.
Ouais, ben en fait la Lumibike dans le jeu de Tron 2 sur PS3, grosso modo ta Lumibike elle a à peu près la maniabilité d'un 747.
Bah, d'un autre côté ça tourne à angle droit, c'est pas évident.
Ouais, non mais sauf que non, là tu oublies. Hein. Tu oublies même l'angle droit en fait. Hein. Juste déjà le gauche-droite ça devient pas passionnant si tu veux. Et en fait, ouais, non, franchement, c'était à chier.
D'accord, donc tu as passé un super pas bon moment.
Heureusement, le jeu, on l'a offert à un ami hein, qui me l'a prêté parce qu'il avait un problème de PlayStation. Donc du coup, j'ai testé gratuitement, quand même une bonne partie.
Il y a des combats de disques
Ouais, il y a des combats de disques. C'est en fait, très rapidement, mis à part certains types d'ennemis où il faut que tu utilises une combo particulière... tu cliques plein de fois, t'appuies quand même à l'AD et puis en fait tu bourrines et ça marche. Alors après il y avait un mode arena où tu dois pouvoir jouer contre d'autres personnes en mode arena qui à mon avis doit peut-être pouvoir un petit peu augmenter la durée de vie du jeu, mais très honnêtement je pense qu'on peut passer son chemin et s'acheter autre chose.
Ok, bon bah...
Donc voilà, le merchandising à tout va c'est bien, si on veut vraiment prévoir des jeux faut être pensé vraiment quoi.
C'est rare hein, les bonnes adaptations
de jeux, oui.
Voilà. Bah, la borne d'arcade du premier Tron était vachement bien. Voilà. C'est,
ouais, mais
c'est
bon, rare. Alors, c'était quand même, c'est de l'ancien quand même, tu parles. Hein.
Oui, je parle de choses très anciennes.
Mais bon.
Il y avait même eu un jeu où je crois tu avais les robots en truc vectoriel, tu sais, en 3D vectoriel en Tron. Tu faisais waouh,
c'était beau.
Bien, nous allons achever notre émission maintenant. N'oubliez pas notre concours.
Il y a plein de trucs à gagner.
Plein de beaux ex-libris. On donne un dernier indice.
C'était quoi l'indice qu'on a donné au début?
Qu'il n'y avait aucun des BD dont on parlait qui était présent sur les personnages.
Ah oui, non, il faut dire un truc par rapport à...
Ouais. Bah, c'est vrai que un des personnages, c'est quand même l'auteur qui s'est représenté lui-même par force narcissisme. Vous ne pouvez pas le rater. Et il faut savoir que il y a aussi un petit indice pour un personnage pas évident. Il y a un personnage qui a un lien avec la bande dessinée Capricorne de Andreas, n'est-ce pas? C'est parce que c'est un personnage qui n'est pas facile à deviner, je pense.
Ouais, là on est sur du lourd. Hein.
Voilà, très bonne BD d'ailleurs, que j'aimerais bien qu'il soit réédité.
Donc n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'il faut donner une bonne réponse à la question subsidiaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la marmite?
Oui, enfin une bonne réponse, une réponse qui nous fasse rire au moins.
Bah disons que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir vous départager. Hein.
Donc,
moi, je pense qu'ils vont tous trouver.
Ouais, tu penses? Pas évident. Enfin, quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver sur lavoixdesbulles.fr. N'oubliez pas que les réponses au concours, c'est à concours@lavoixdesbulles.fr. Vous avez jusqu'au 15 avril. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Ça aide.